Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, première édition, Stéphane Carpentier.
Toute l'actualité de votre dimanche avant de plonger dans les hommages à Jacques Chirac. Nous apprenons ce matin, et sachez-le, qu'une femme de 60 ans a été retrouvée morte dans son lit à Mulhouse le 13 juin dernier, alors que 10 jours plus tôt, son employeur d'une agence intérimaire avait appelé le SAMU pour signaler ses douleurs à la poitrine, sans qu'au final aucun véhicule ne soit dépêché sur place. Y a-t-il eu une mauvaise gestion du 15 et du médecin régulateur qui avait pris en charge le coup de fil, ce qui pourrait rappeler d'autres histoires? Pour le savoir, Marion Ferrer, une information judiciaire a été ouverte.
Et tout a commencé le 3 juin dernier. Vous l'avez dit, la patronne d'une agence d'intérim passe un coup de fil à une employée pour lui confier une mission. La femme de 60 ans refuse. Elle explique se sentir mal, respirer avec difficulté. Elle se plaint aussi de douleurs au bras, au cœur et à la cage thoracique. Inquiète, la chef décide d'appeler le SAMU. Elle reste en ligne avec son employée, prend des nouvelles et ne coupe la communication que lorsque la liaison est faite entre l'agent du 15 et la sexagénaire. Il est avéré aujourd'hui que l'agent régulateur n'a pas envoyé de véhicule de secours sur place. Pire encore, aucun coup de fil n'a été passé à cette femme pour s'assurer qu'elle aille mieux. Il faudra attendre 10 jours pour s'apercevoir qu'elle est décédée. C'est un voisin alerté par l'odeur qui a fait la macabre découverte et qui l'a trouvée sans vie dans son lit. L'autopsie confirme qu'elle a succombé à une crise cardiaque peu de temps après l'échange avec le SAMU. Alors, il faut savoir que le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace est l'un des plus touchés par le manque de personnel. Les grévistes signalent qu'une seule équipe fait tourner le service d'urgence et de réanimation au lieu de 3.
Voilà le récit RTL, Marion Ferrer, les toutes premières informations. Évidemment, nous y reviendrons régulièrement dans RTL Matin Week-end. À Rouen, 3 jours après le spectaculaire incendie de l'usine chimique Lubrizol, toujours beaucoup de questions et d'inquiétudes, même si le préfet de Normandie assure disposer de résultats d'analyse encourageants quant à la qualité de l'air sur la ville et le secteur du sinistre. Le gouvernement affirme être vigilant quant à la transparence des examens et des informations divulguées. Sur place, une forte odeur est toujours présente. Le parquet a élargi hier l'enquête à la mise en danger d'autrui. On assure que les écoles seront nettoyées et prêtes à recevoir les enfants dès demain lundi. Alors rejoignons sur place Julien Caillard pour savoir comment les habitants, les familles gèrent la situation. Julien.
Dans ce quartier, à moins de 500 mètres de l'usine, l'odeur est nauséabonde. Les gens sont cloîtrés chez eux. Et pas question pour Sonia de laisser ses enfants partir à l'école demain.
Pour les protéger, on préfère les confiner à la maison, colère, parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Donc, on ne peut pas se permettre de ramener les enfants à l'école ou bien de ne pas prendre, conscience de la gravité de la situation. On sent encore l'odeur, donc c'est qu'il y a un danger pour nous.
Un danger ressenti par Mohamed, l'un des fils de Sonia.
Mauvaise idée d'y aller à l'école parce que déjà ça sent la fumée et en plus on peut avoir mal au cœur.
Ici, beaucoup vont garder les enfants à la maison. Demain, Thierry a une fille de 6 ans.
Pour sa santé, je préfère qu'elle soit là qu'à l'école. Je viens de passer là encore sur le 6e pont, on sent énormément. Atroce, hein. Il y a un truc, hein, parce qu'ils veulent rien dire, c'est ça le truc.
Personne ici ne croit les autorités, surtout pas Donovan, lui n'ira pas au collège demain.
Bah, la peur, la pollution, rester à la maison pour éviter une maladie ou des trucs comme ça. On veut pas nous dire la vérité.
Pour ses habitants, le retour à la normale n'est pas pour demain.
Reportage RTL à Rouen, Julien Caillard. En bref, les Gilets jaunes ont manifesté hier dans le calme à Bordeaux, environ 700 personnes. Ça a dégénéré par contre à Toulouse, 1 000 000 de contestataires et des affrontements avec les forces de l'ordre, projectiles contre gaz lacrymogène, 5 interpellations. Idem à Montpellier où il y a eu des échauffourées, 4 policiers légèrement blessés, 9 individus interpellés.
RTL, 7h04.
3 jours après la mort de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans, le moment est donc venu de lui dire adieu. Ce dimanche sera marqué par un rassemblement populaire aux Invalides à Paris, conformément aux souhaits de la famille. Les Français pourront se recueillir à partir de 14h devant le cercueil de celui qui a occupé l'Élysée pendant 12 ans. Ses proches pourraient faire le déplacement. En tous les cas, on attend du monde. Pour beaucoup, pas question de rater ce moment. Martine, par exemple, viendra spécialement du Pas-de-Calais.
C'est un grand homme. Il a fait beaucoup pour la France. Et pour moi, c'est la moindre des choses que de lui rendre un hommage. Qu'on va prendre le bus au départ d'Arras. Et ensuite, on va aller aux Invalides. Et je pense qu'on fera la queue comme tout le monde, hein, parce que qu'on soit militant, adhérent ou simple Français, tout le monde a le droit de rendre hommage à M. Chirac. Dans la région, ben, on a le Louvre, c'est grâce à lui. C'est peut-être pas lui qui l'a inauguré, mais c'est quand même grâce à lui. C'est un grand homme pour moi, très sympathique. Et on aimait beaucoup Bernadette aussi. Il rassemble, je pense. Et puis, j'entendais qu'on allait peut-être lui donner une rue ou une place. Ben, j'espère qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on le fera. On lui doit bien ça.
On lui doit bien ça, Martine, rencontrée à Arras par Antoine Decarne. Un hommage populaire à suivre, bien évidemment, sur RTL en direct. Une édition spéciale cet après-midi de 13h à 14h30 avec nos reporters sur place et des invités en studio autour de Vincent Parisot. Hommage populaire donc aujourd'hui, avant demain, la journée de deuil national en deux temps. Cérémonie privée. Le matin, la famille réunie autour du cercueil en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Dans la foulée, les honneurs militaires en présence d'Emmanuel Macron. Puis le convoi funéraire gagnera avant midi l'église Saint-Sulpice. Un service solennel lui sera consacré. Marie Guerrier, vous avez des précisions.
Quand le cercueil entrera dans l'église, le chœur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris entonnera le Requiem de Fauré. Un chant qui accompagnera le défunt dans la lente remontée de la nef. Le cercueil sera ensuite déposé au pied des 8 marches qui mènent à l'autel où une douzaine d'évêques prendront place. L'archevêque de Paris présidera la cérémonie, c'est lui qui prendra la parole pour l'homélie. La famille a choisi des textes qui rythmeront la liturgie, un extrait de Saint Paul qui encourage à prier pour les chefs d'État et un extrait de l'évangile de Matthieu qui incite à venir en aide aux pauvres, aux malades, aux étrangers. Le chef d'orchestre argentino-israélien Daniel Barenboim est annoncé au piano pour quelques mesures d'un impromptu de Schubert. Jacques Chirac l'avait décoré de la Légion d'honneur en 2007, saluant un homme de paix avec ces mots « Qu'est-ce qui mieux que la musique sait parler à la tête, au cœur et au ventre ?»
Des informations RTL de Marie Guerrier. Les anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande seront présents demain. Marine Le Pen également. On viendra de l'étranger aussi. Poutine, le russe, sera là. Tout comme les présidents italiens, allemands, congolais, le libanais Hariri, le belge Charles Michel. Tous ont été conviés à déjeuner à l'Élysée par Emmanuel Macron après la cérémonie. Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il se rendra également le week-end prochain en Corrèze, puisque des hommages sont prévus dans le fief de Chirac. Vous avez absolument tout, un dossier complet sur la disparition de Jacques Chirac et ses hommages aujourd'hui populaires et demain jour de deuil national à retrouver sur notre site rtl.fr. Vous restez bien avec nous dans un instant, la politique. Marion Maréchal est en campagne, même si elle assure le contraire.
RTL Matin, 7h09, la suite du journal, Stéphane Carpentier.
Avec la politique, c'est Bruno Le Maire au grand jury à midi. Tout à l'heure, grand jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre de l'économie, qui sera interrogé sur le budget de l'année prochaine puisque le projet de loi de finances 2020 a été adopté en Conseil des ministres avec assez peu d'économies réalisées. Hier à Paris, c'est Marion Maréchal qui rassemblait la droite conservatrice et identitaire. Souvenez-vous qu'elle est censée être à l'écart de la politique. La nièce de Marine Le Pen a pris la parole dans la foulée d'Éric Zemmour, auteur d'une violente charge contre l'islam. Elle a parlé d'un grand remplacement supposé de la population française par l'immigration. Et même si elle se dit donc officiellement retraitée de la politique à 29 ans, ses mots sont pleins d'ambition pour l'avenir.
N'attendons pas non plus l'homme providentiel. L'homme et la femme providentielle, c'est chacun et c'est chacune d'entre vous. Alors bien sûr, j'entends les impatiences et les frustrations. J'entends ceux qui veulent agir à tout prix, tout de suite, pressés par le temps, angoissés par les mots qui nous frappent et qui, c'est vrai, s'accélèrent. Mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier? Alors agissons, et demain, j'en suis intimement convaincue, nous serons au pouvoir. Je vous remercie.
Marion Maréchal sur scène hier à Paris, des propos recueillis pour RTL par Marie Mollet. Les sports, l'actualité chargée ce dimanche avec Marseille-Rennes ce soir à 21h en clôture de la 8e journée de Ligue 1 de football. Match en direct dans Soir de Ligue 1 sur RTL. Avant cela, il y aura Strasbourg-Montpellier à 15h et à 17h Saint-Etienne sur la pelouse de Nîmes. Hier, le PSG est allé gagner à Bordeaux, 1-0 grâce à Neymar, buteur sur une passe de Mbappé de retour. Angers, deuxième au classement, a été tenu en échec sur son terrain par Amiens, 1-0. Même score entre Nice et Lille, 2-2 entre Metz et Toulouse. Monaco va mieux, ça se confirme, 4-1 hier face à Brest. Par contre, Lyon ne va pas bien du tout, 3e défaite de la saison, en plus dans son stade. Les Lyonnais battus par Nantes 1-0, l'OL est 11e au classement. Le président Aulas grimace et le directeur sportif, le brésilien Juninho, analyse.
C'est vrai que le coach, c'est le premier parce que c'est la loi de foot. C'est lui qui est sur le banc et c'est lui qui a le dernier mot. Quand tu ne gagnes pas, si tu es à la place du président, tu allais faire la même chose, je pense, non? Donc c'est comme ça que ça marche le foot. Ça ne veut dire pas qu'on va changer, mais ça veut dire qu'on s'y remet en question. Nous tous, est-ce que la message elle va passer si on continue à insister, que ce soit la de coach, la mienne, de toute la staff? J'ai déjà dit au président, c'est lui qui dépend de toutes les décisions. Il n'est pas content non plus, bien sûr. On verra quelle décision il va prendre.
Affaire à suivre, le directeur sportif de l'OL, Juninho, au micro RTL de Willy Maisonas. Le volleyball et l'Euro, pas de médaille pour les Français. Ils se sont inclinés dans la petite finale hier soir contre la Pologne, 3-7-0. La grande finale, c'est cet après-midi entre la Serbie et la Slovénie. Le rugby en attendant en France, États-Unis, mercredi, 2 matchs ce matin dans cette Coupe du Monde disputée au Japon. Géorgie-Uruguay, le coup d'envoi dans 3 minutes et une très belle affiche à 9h45 tout à l'heure entre les Australiens et les Gallois. À Doha, au Qatar, la chaleur étouffante continue de faire des dégâts dans ces championnats du monde d'athlétisme. Le marcheur français Johan Diniz a dû abandonner dans le 50 km marche au tiers du parcours. Il n'était pas dans son assiette face au taux d'humidité. Pas mieux pour le perchiste Renaud Lavillény qui n'a pas passé les qualifications de l'épreuve de la perche. Quant à l'homme le plus rapide de la planète, il est américain. S'appelle Christian Coleman, s'imposant en 9 secondes 76 centièmes dans l'épreuve du 100 mètres. Un champion, Jean-Michel Rascol, sur qui planent des soupçons.
Rien à voir avec la foulée gracile d'Usain Bolt. Christian Coleman est plus agressif lorsqu'il griffe la piste, même si sa bouille rappelle la douceur des traits d'un autre maître de la discipline, Carl Lewis. Champion du monde en salle, recordman du monde du 60 mètres, désormais patron incontesté du sprint, Christian Coleman cache-t-il pourtant un terrible secret? Il ne doit en effet qu'à la pugnacité de ses avocats d'être présent dans le stade des Émirs. Après une affaire de rendez-vous manqué avec les shérifs de la lutte antidopage, il se dit victime, son titre n'effacera pas le doute. Hier soir, un confrère américain osait lui rappeler une terrible statistique. Ces 30 dernières années, 42 athlètes se sont vus retirer une médaille en athlétisme. Rien qu'aux Jeux Olympiques.
Jean-Michel Rascol au championnat du monde d'athlétisme. Les mondiaux de cyclisme en Grande-Bretagne, 285 km pour le peloton. On mise beaucoup côté français sur Julien Alaphilippe, l'une des stars du dernier Tour de France. Et puis c'est à 13h10 que sera donné le départ du Grand Prix de Formule 1 de Russie sur le circuit de Sochi, 16e épisode de la saison. Le monégasque Charles Leclerc s'élancera le premier au volant de sa Ferrari. À ses côtés, le britannique Hamilton. Le français Romain Grosjean sera lui en quatrième ligne tout à l'heure. RTL.fr évidemment pour toute l'actualité. On salue Claudine qui adore notre bonne humeur matinale. On a Anne-Laure qui est à Kerlouan en Bretagne. Il y a du vent, il y a des nuages, il y a 15 degrés. Elle va rester au chaud à la maison, elle a bien raison. Aude Emmanuel est à Chambéry, elle nous adore aussi. Elle va à une braderie dans les rues de Chambéry. Profitez bien de votre journée. Vous nous rejoignez la page Facebook, les SMS 64 900, code matin.